On va écouter la parole de Dieu qui, dans le cadre de ce livre « Les uns et les autres » de Kuhn, que Michel a commencé, eh bien, nous sommes chapitre 6, « Édifiez-vous les uns les autres ». Dimanche dernier, j'ai commencé ce message. Michel prendra le chapitre suivant la semaine prochaine. Mais la synchronisation n'a pas bien fonctionné. Hier, on a passé beaucoup de temps à mettre tout ça au point. Donc aujourd'hui, vous pouvez suivre de manière synchronisée. Parce que désynchronisé, c'est pire que si il vaudrait mieux pas passer les slides. Donc je suis content que ce matin, ça marche. Donc édifiez-vous les uns les autres. C'est basé sur le verset suivant, 1 Thessaloniciens 5:11, dans la Louis II, parce que voilà, les interprétations, les traductions sont un peu différentes et donnent de la couleur à ce passage. Je lis, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. La traduction du semeur, qui est celle d'Alfred Kuhn, puisqu'il a aussi fait une traduction de la Bible, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme déjà vous le faites. Alors, j'avais dit la dernière fois, je passe très rapidement sur ce que j'ai dit, mais juste un résumé pour passer à l'application. Jésus est un bâtisseur. Parce qu'il est question d'édifier, donc de bâtir, et Jésus est un bâtisseur. Il a dit lui-même, je bâtirai mon église. Donc c'est bien un verbe de construction qu'il a utilisé, je bâtirai mon église. Et mon église, ce n'est pas juste de la pierre, c'est aussi des êtres humains, c'est des maisons. Quand on appelle maison, c'est un endroit qui réunit des personnes d'une même lignée familiale. Quelles sont les leçons de la construction? Donc, je rappelle juste qu'est-ce que nous pouvons apprendre de la construction d'une maison pour bien comprendre ces passages qui sont à la fois spirituels et à la fois pratiques, puisque c'est une analogie entre la construction physique et la construction spirituelle. Alors, les leçons de cette construction, nous le voyons dans 1 Corinthiens 3:9. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, comme un sage maître d'œuvre. On va retrouver ce terme dans la construction. J'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Et le mot construction n'arrête pas d'intervenir dans ces passages, versets 9 et 10 de Corinthiens. Jésus, bien sûr, était charpentier. Sauf que, quand on le remet dans le contexte, à l'époque, il n'y avait pas de briques, il n'y avait pas de parpaing, comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait surtout du bois, du chaume, enfin toutes sortes de choses. Et le charpentier était pas simplement là pour faire la charpente de la toiture, il était aussi fait pour la structure de manière générale. Si vous allez en Alsace, dont je viens, ou en Normandie ou ailleurs, vous voyez souvent des structures en bois qui apparaissent. D'ailleurs, ça fait très joli, des colombages. Et même en Alsace, les maisons, quand ils partaient, ils les démontaient et les remontaient ailleurs. Ce qui leur a permis de faire l'écomusée de Mulhouse avec des vraies maisons qui étaient dans le nord de l'Alsace pour les transporter. Donc un charpentier, c'est quelqu'un qui pense à l'ossature générale de la maison. Et on peut dire que Jésus était un sage maître d'œuvre, hein, le maître d'œuvre qui est effectivement à charge de l'ensemble de sa structure. Si on prend l'analogie de ce chantier de construction, hein, qui est un peu plus complexe qu'une simple maison, parce qu'elle habite beaucoup de gens, eh bien, il y a quelque chose de particulier qui est très important dans un chantier, c'est qu'au départ, vous n'avez, même s'il n'y a rien de construit, vous avez des panneaux, ce qu'on appelle un panneau de chantier. Voilà. Nous, on avait un panneau de chantier, on l'a enlevé parce que voilà, les travaux sont pratiquement finis. Florence aussi connaît maintenant ce panneau de chantier, elle était obligée de le remplir. Et il y a trois choses qui sont importantes sur le panneau de chantier. On peut bien sûr l'améliorer en mettant des images, vous voyez, de façon de présenter dans la forme. Mais dans le fond, il y a trois choses et trois unique chose qui définisse le chantier qui va s'ouvrir vers un projet. Donc il y a bien sûr le projet, souvent l'image qui est là, vous voyez, qui présente l'image, mais il y a trois choses. Alors ces trois choses sont les mêmes qu'on trouve dans l'organisation spirituelle de l'Église, qui est une construction, la maison de Dieu. C'est d'abord un maître d'ouvrage. Et dans le cas de l'Église, le maître d'ouvrage, c'est Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, puisqu'il est indivisible, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Le bénéficiaire de cet ouvrage, c'est Dieu. Il a fait l'Église à sa gloire. Nous sommes faits à sa gloire. Donc ça, c'est la première chose. Premier élément qui est indissociable du deuxième, qui est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, pardon. Donc maître d'ouvrage, c'est Dieu. Le maître d'œuvre, c'est Christ et son esprit. Christ, quand il était là... Ah, qu'est-ce qui se passe, là ? Waouh, si, c'est grave. Ça revient ? Ah, j'ai pas vu. J'ai des palpitements de cœur, hein, parce que je me mets à la place de ceux qui sont derrière. C'est pas évident. Le maître d'œuvre, c'est Christ, quand il était sur la terre, en tant que fils de l'homme. Jésus s'est toujours appelé fils de l'homme. Que dites-vous du fils de l'homme, alors qu'il était aussi fils de Dieu ? Et Pierre le dira, tu es le fils de Dieu, le Christ, le fils de Dieu. Mais lui, Jésus s'est toujours appelé le fils de l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est le deuxième Adam qui a créé une nouvelle race. Donc là, dans ce cas-là, Christ, c'est le fils de l'homme et son esprit qu'il a envoyé après lui pour que cette... Ah bon, tu crois que c'est ça ? C'est son esprit aujourd'hui qui est le maître d'œuvre. Ceci étant, derrière son départ, Christ, il l'a confié à des apôtres, qui sont des prophètes qui parlent de la part de Dieu, qui sont missionnés. Et d'ailleurs, il dit, ce serait des apôtres, c'est-à-dire des prophètes, des gens qui parlent de la part de Dieu. Donc, le maître d'œuvre, c'est ça. Ensuite, nous avons les constructeurs, qui sont aussi listés sur le panneau de chantier, qui sont les collaborateurs qui construisent sous la direction du maître d'œuvre. Alors, ceci étant, il y a une hiérarchie aussi, donc une organisation hiérarchique. Pour que ça marche, il faut des chefs. Et le chef suprême, c'est Dieu. C'est le maître d'ouvrage qui est le chef suprême, Père, Fils, Saint-Esprit, qui est indivisible, qui est Dieu. C'est un projet à la gloire de Dieu. Ensuite, il confie la maîtrise d'œuvre à son fils, qui est Christ, et son esprit, qui est le coordinateur de l'ensemble de cette œuvre, hein, sachant qu'il y a l'Église universelle. Hein, c'est pas l'ensemble des églises locales, il n'y a qu'une Église. Et ensuite, après, il y a l'exécuteur des travaux, qui sont les entrepreneurs, les collaborateurs, comme on a lu tout à l'heure dans Colossiens, des constructeurs, c'est nous. C'est nous depuis l'origine de l'Église jusqu'à son retour. Et là, on a des ministères dons. Voilà, pardon. On a des ministères dons. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui vont passer dans cette construction, qui sont les ministères avec des compétences. Ce sont tous les membres de l'Église avec des compétences diverses. J'avais pris une expérience que moi-même j'ai vécue, qui est celle des castors. Les castors, c'est une association des castors qui existe encore aujourd'hui, mais qui a muté dans la façon d'organisation, de s'organiser. Il y a une cinquantaine d'années, Paulette, qui était la doyenne de l'église avec son mari, ils étaient dans les castors où ils faisaient tout, y compris les briques. Ils fabriquaient les briques avec une machine à briques. Et le samedi, il y avait tous ceux, par exemple, dans un lotissement de 10 maisons. Ils se sont mis d'accord pour être dans les castors. Et dans ces 10 maisons, au départ, ils fabriquaient les briques. Et ensuite, après, il y en a qui commençaient, etc. Donc, ces maisons-là, vous pouvez les acheter. Je peux vous garantir qu'elles sont solides. Hein. Il y en a à Poissy. C'est d'ailleurs là où est Michel et Christiane. Bonjour, Michel et Christiane, vous êtes là. Voilà, c'est dans votre quartier qu'il y a aussi des castors. Castor. Moi, je suis rentré dans la Castor, parce que ça m'intéressait beaucoup, dans mes années, donc 78, quand on a construit, Olivier est né. Mais à l'époque, il y avait moins d'engagement, parce qu'il y avait des engagements de solidarité, où il fallait donner la main, parce que jusqu'à la fin, les 10 maisons étaient construites par tout le monde. Et, dans ma période, il n'y avait pas forcément d'obligation à donner des heures, mais à collaborer différemment. Aujourd'hui, cette société existe encore, mais vous fournit plus ou moins clé en main. Voilà. Alors, retour à l'édification mutuelle dans l'Église, hein, puisque là c'est une métaphore. Par contre, là, dans la réalité, on doit, dans l'Église locale, se soutenir mutuellement. Le verset que je prendrai, qui est pris dans Cune, c'est Romains 15, 2, que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain en vue de ce qui est bon et constructif. Voyez-vous, on est dans un schéma qui n'est pas celui du monde. Fais ce qui te plaît. Voyez? Non, que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain. Alors que dans le monde, on dit fais ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire. Et de plus en plus, puisqu'on devient de plus en plus narcissique, le monde devient narcissique. Centré sur soi. Là, c'est centré sur le bien commun. Vous voyez, comme les castors. C'est les 10 maisons qui appartiennent à tout le monde. Et aucun n'arrêtait de travailler tant que les 10 maisons se finissent. Même si le premier avait sa maison, il continuait à travailler pour le dernier. Vous voyez, c'est la collaboration. Et ben, c'est comme ça qu'une église a fonctionné. Et la règle, c'est l'amour. Le ciment de tout ça, de cette construction altruiste, de cette collaboration altruiste pour les autres, c'est l'amour. L'amour qui d'ailleurs couvre une multitude de péchés, à l'instar des corps de métier qui se suivent sur un chantier de construction. J'ai l'habitude de dire, parce que je l'ai appris de mes ancêtres, que le maçon travaille au centimètre, que le plâtrier au millimètre, et puis le peintre et tout ça au dixième de millimètre. Hier, avec Florence, qui est experte en peinture maintenant d'intérieur, elle a réussi ses joints. Et une fois qu'elle a fini, elle a dit, tu vois, en lumière rasante, on voit ça. Mais partout, on le voit. Hein, sauf si on passe 10 heures Mais bon, ça ne sert à rien. Mais vous voyez, le maçon, lui, il construit, mais comme derrière, ce sera caché. Bon, bah, il va pas passer 500 heures à construire au millimètre près son mur. Donc c'est à peu près. Et ensuite, après, le plâtrier derrière, il corrige. Il fait les choses mieux, mais c'est au millimètre. Et ensuite, après, il y a le tapissier, le peintre, etc., qui essaie de faire quelque chose d'impeccable. Mais c'est comme ça dans l'Église. Dans l'Église, on n'a pas besoin de faire des choses parfaitement, quelqu'un parfaitement, de toute façon, le parfait n'existe pas. Mais en tout cas, il faut se couvrir mutuellement. Il ne faut pas se critiquer. On dit, ouais, il a fait ça, il a fait ça. Non. Sauf qu'ensemble, on fait une belle construction. Sauf que les métiers sont différents. Les attributions sont différentes. Les qualifications sont différentes. Et ça fait un bel ensemble. Et c'est comme ça que doit fonctionner l'Église. Alors, quelles sont les applications concrètes dans cet édifice de l'Église? On va aller un peu plus en détail. Parce que nous sommes des collaborateurs de Dieu. Alors, je reviens aux grosses œuvres. Hein. Il y a deux grandes phases dans une construction. Il y a le gros œuvre et le second œuvre. Les deux prennent à peu près le même temps. Moi, quand j'ai construit, disons, là où j'habite, pour accueillir l'église, mon salon était trop petit. Pouvait contenir 10 personnes. Et ça a commencé à grandir. Après, on est allé à l'église réformée pendant plus d'un an, 1 an et demi, je ne sais plus. Pendant que j'ai fait une extension pour accueillir l'église, qui ensuite, après, pouvait accueillir 100 personnes. On était parfois jusqu'à 100. Donc, un grand salon. Eh bien, pendant une année, parce que comme je travaillais à l'aérospatiale, j'avais que le soir et puis les vacances avec Michel. Pendant 10 ans, j'ai pas pris de vacances pour pouvoir travailler et faire ma construction moi-même. Donc pendant un an, j'ai fait le gros œuvre et ça m'a pris un an pour faire le second œuvre. C'est à peu près la même chose. Et on a l'impression que oh, c'est très compliqué. Florence, quand elle a construit sa maison, qui est en bois, eh bien, en 15 jours, la structure était faite. Et ensuite, après, ça a mis 2 mois et demi pour faire les finitions, en gros. Donc vous voyez, il ne faut pas, disons, négliger le second œuvre, sous prétexte qu'il est second, et que le premier, c'est le gros œuvre, ou le premier œuvre, la structure, mais les deux sont nécessaires. Le gros œuvre, c'est souvent hors d'eau, hors d'air, et ensuite, après, on peut faire les travaux à l'intérieur. Donc ce sont les travaux de structure, et c'est très important, parce que vous pouvez toujours faire le second œuvre, si le premier s'écroule, voilà, vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Donc les deux sont nécessaires, et c'est une construction qui s'établit. Vous verrez tout à l'heure que je l'applique à cette église locale à partir de ce que je viens de vous dire. Le second œuvre, donc, c'est les travaux de finition. Et les métiers ne sont pas les mêmes. Les sensibilités de ceux qui le font ne sont pas les mêmes. Vous voyez, vous voyez, par exemple, quand Florence... bon, je prends son exemple, c'est le plus récent. Hein, j'ai aussi aidé Olivier, j'ai fait ma propre construction, donc je connais un peu les constructions. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent être très, très longtemps. Par contre, si vous n'avez pas la personne de l'EDF ou autre qui vient pour mettre le compteur, bah, vous avez beau tout avoir en main, l'électricité, vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Quand il vient, ça prend combien de temps? Parfois quelques minutes, enfin, peut-être une heure. Mais il met son compteur. Vous voyez, c'est important. C'est très important, mais c'est très court. Vous voyez. Donc, dans l'Église, c'est pareil. Il peut y avoir des personnes qui prennent très peu de temps, et c'est très important pour que ça marche. Vous voyez. Donc, chacun est important. Chacun est important. Mais celui qui va poser le compteur, il ne va pas commencer à critiquer celui qui a posé la maçonnerie, etc., parce qu'il a vu un petit défaut, etc. Ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Le bénéficiaire, lui, s'il est content de ce qui a été fait, eh bien, c'est lui. Si Dieu est content de son Église, c'est à lui. On n'a pas besoin de prendre la défense de Dieu. Comme si on devait le défendre en disant « Oui, mais lui, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Bon. » Non. Mais toi, fais ce que Dieu te demande. Voyez-vous ? Et du coup, ça va très bien marcher, parce que chacun fait ce qu'il fait, et il rend compte au maître d'œuvre. Bien sûr, c'est le maître d'œuvre, par exemple. Il s'est passé quelque chose un peu bizarre, ça ne m'est jamais arrivé, et même ceux qui l'ont vécu, je ne pas arrivé. La maison de Florence, c'est en bois, et à l'intérieur, ils mettent de l'aluminium pour faire un truc étanche comme une thermos. Et ensuite, après, ils amènent une machine et ils soufflent. Et toutes les fuites, il ne faut pas qu'il y ait de fuites, ou très très peu, dans les recommandations, les RT 2012, maintenant 2020, c'est peut-être encore plus, à peu près une feuille de papier comme ça de fuite. Et maintenant, ça va être un morceau comme ça. Donc il faut que ce soit étanche. Donc il faut que tout soit scotché, 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 de manière à ce que la chaleur que vous produisez puisse rester à l'intérieur de la maison. C'est ça l'idée. Et donc tout ça, ça a été fait. Et puis il y a un petit fil qui traînait d'une lampe qui s'est mis sur le truc. Et en fait, ça fait que le compteur a commencé à dériver, à faire tourner le compteur. Et il avait des milliers et des milliers de kilowatts qui s'affichaient, qui n'étaient pas des vrais kilowatts, mais qui s'affichaient. Donc du coup, il aurait dû payer, je ne sais pas, des sommes colossales à l'EDF, quoi, hein, quand ils prennent le truc. Donc on a eu des litiges, etc. Bon, ils l'ont enlevé, heureusement, parce qu'ils ont bien vu que ce n'était pas possible. Hein. Mais bon, c'est le compteur Linky qui a foiré, parce qu'il a détecté quelque chose qui n'était pas prévu dans le contrat de son truc. Effectivement, les maisons bois qui sont étanches et qu'on touche avec un truc. Ouais, bon, personne n'a compris. Hein. L'EDF est venu, on n'a pas compris, ils ont considéré que le compteur était cassé, donc ils l'ont changé. C'est pour montrer qu'une petite chose peut changer, mais c'est le maître d'œuvre qui doit s'en occuper. Ouais. C'est moi qui étais maître d'œuvre par délégation de Florence, qui est le maître d'ouvrage, qui m'a confié la construction. Donc je m'en suis occupé, on a discuté, etc. Mais voilà, c'est pas le charpentier ou le peintre, etc., qui s'en occupait. D'ailleurs, ils n'étaient pas là. Ouais. Donc, faut bien voir que l'Église, elle appartient à Dieu. Et c'est au travers de la maîtrise d'œuvre, bien sûr, qui sont des hommes, qui sont les dirigeants de l'Église, qui maintenant, par délégation, comme Jésus a délégué à Pierre et à ses apôtres la suite, eh bien, c'est eux qui doivent rendre compte, et c'est eux qui doivent critiquer s'il le faut, décider, parce qu'il faut aussi que le maître d'œuvre, à un moment donné, il mette les bâtons dans les roues. Si j'avais pas intervenu, bah, Florence aurait été avec des milliers ou des millions d'argent à payer. Oui. Voilà, c'est juste une petite anecdote pour montrer que voilà, chacun intervenant est important, mais il y a une hiérarchie dans l'importance. Et ceux qui sont après les entrepreneurs, c'est le maître d'œuvre. Alors, autre façon aussi de voir les choses, c'est en faisant la différence entre l'office et l'officier. Alors, l'office, il y a au Moyen Âge, il n'y avait que des offices. Aujourd'hui, il reste des offices, comme l'office notarial. Souvent, c'est lié au gouvernement. L'office de police, l'office, il y a même des offices de tourisme. Il y a tout plein d'offices. L'office, c'est l'endroit. Si on donne un peu une définition, c'est une charge, un poste à responsabilité, qui répond à un besoin précis dans l'organisation. Par exemple, on pourrait dire l'office de maçon. La Révolution a changé les notions d'office, mais jusqu'à la Révolution 1789, il y avait ces offices qui existaient, pour d'autres raisons que je n'évoquerai pas. Donc l'office, c'est une charge. Une charge avec des précisions, avec un cahier des charges, puisque c'est une charge, un cahier des charges, où il faut faire les choses de manière précise. Ici, quand cette construction a été faite, on a fait venir les ouvriers de Christ, et celui qui contrôler un petit peu les travaux, n'était pas maître d'œuvre, c'était moi à nouveau qui était maître d'œuvre, mais à l'époque, lui, il avait tout plein de bouquins comme ça, et le soir, il regardait tous les standards, tout ce qu'il devait respecter comme norme. Et quand l'architecte est venu, il a dit, écoutez, une maison comme ça, enfin, une église comme ça, on n'en fait plus. Ça n'existe pas, c'est trop cher. Parce que là, il y a deux plaques de placo, parce qu'il a suivi les trucs en espace public, il faut des plaques, etc. C'était fait dans les règles de l'art. Il a presque mesuré le nombre de vis qu'il mettait sur les panneaux pour que ce soit bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a aucun problème avec cette église. On n'a pratiquement pas de maintenance, en tout cas maintenance du bâtiment, parce que c'est très bien fait. Parce que le cahier des charges de l'office a été respecté par quelqu'un qui l'a fait précisément. Et il y a l'officier. Celui qui prend la charge. Lui, il doit répondre à des qualifications précises. Il est formé pour ça, dans une école, etc. Il est en relation avec la charge de l'office. Et il doit être apte à tenir ce poste. Mais quand quelqu'un démarre, il n'est pas apte. Bon, il est sorti d'école, on essaie maintenant de faire de l'alternance pour améliorer les choses. Mais bon, quelqu'un qui a 50 ans ou 30 ans d'expérience, c'est sûr que c'est différent. Quand je fais venir un chauffagiste, moi, même étant ingénieur, je sais à peu près les fonctions. Mais lui, quand il vient, il dit « Ah, mais il y a ça, ça, ça. Pourquoi ?» Parce qu'il a développé des réflexes pour voir le diagnostic, comme un médecin. Oui. Donc ça fait partie de l'officier qui s'est qualifié, qui s'est amélioré durant son travail. Donc les officiers sont établis dans leur office par leur père ou leur supérieur. C'est-à-dire ceux qui les reconnaissent comme étant capables de le faire. Ou le supérieur qui dit, suite à un discernement, dans leur qualité de serviteur, on ne s'auto-établit jamais soi-même. C'est toujours les autres qui nous établissent. Ceci étant, je vais passer à quelque chose de pratique, qui sont quelques offices, je ne vais pas voir tous les offices, mais les offices de direction. Alors les offices de direction, dans l'Église, dans le Nouveau Testament, ils prennent plusieurs noms. Il y a pasteur principal, pasteur opérationnel, ancien, diacre. Tout cela sont des offices de direction qui dirigent l'Église, qui sont dans la charge principale dans la hiérarchie. Alors prenons juste l'ancien pour montrer que le cahier des charges est donné par la Bible. Les autres cahiers des charges n'existent pas dans la Bible, mais les cahiers des charges les plus importants, ceux qui sont en charge de direction, eh bien ce cahier des charges est donné. Alors c'est une charge de gouvernance, de direction, de conducteur, de surveillant, de superviseur. D'ailleurs, mon superviseur c'est évêque, épiscopos c'est surveiller, superviseur. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus rien. Non, il y a une instabilité, mais je sais pas à quoi c'est dû. Mais il faut le laisser, hein, parce que ça revient. Donc là, maintenant, ça devient rouge. Voilà. Je sais pas. Hein, on verra ça plus tard. Hein. Non, non, c'est pas grave. Hein. Si ça revient, c'est le plus important. Voilà. Et si c'est synchronisé, c'est plus important. Donc je disais que l'ancien, qui est un mot très vieux, qui se trouve déjà dans l'Ancien Testament avec Moïse, il a mis en place des anciens dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est les anciens. Sauf que c'est un peu désuet maintenant. Donc aujourd'hui, on utilise direction, conducteur, surveillant, superviseur ou pasteur, qui est aussi pris pour cela, avec une responsabilité globale de l'Église, générale de l'Église. Et voilà le cahier des charges de cet office qui se trouve dans 1 Timothée 3. Je le lis parce que voilà, ça montre que le cahier des charges, c'est quelque chose de biblique. C'est pas quelque chose qui est humain. C'est la parole de Dieu. Voilà, je lis. Cette parole est certaine. En plus, elle est certaine. Hein. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc là, c'est épiscopos, celui qui est superviseur hein, de l'Église, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ce qu'on ne trouvera pas dans le cahier des charges du diacre. C'est une des choses qui diffère complètement. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni mais indulgent, pacifique, désintéressé. Désintéressé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Regardez. Certains pasteurs, justement, où il y a de la corruption, parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Tiens, voilà une qualification qui fait apparaître que voilà, il faut déjà qu'un ancien ait une maison, qu'on vérifie qu'il dirige bien, que voilà. Vous voyez, donc on est déjà dans l'alternance là. Hein. Il est en alternance cet ancien dans sa propre famille, qui montre ses qualités. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Parfaite honnêteté. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et voilà, on a un combat spirituel. Je ferme la parenthèse. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Cette dernière phrase, le pasteur Pawson a beaucoup insisté là-dessus. Moi, je l'ai fait une ou deux fois, quand vraiment c'était litigieux pour quelqu'un qui donnait un mauvais témoignage dans l'Église. Je me suis intéressé à savoir comment il se comportait au travail, et c'était pareil. C'était une catastrophe. Oui, donc, c'est pas possible de donner une responsabilité à quelqu'un qui ne se comporte pas bien à son travail. Mais nous sommes très heureux d'avoir dans l'Église des personnes qui ont été félicitées pour leur application au travail. Et j'en suis très très content, qui ont eu comment ça s'appelle ? meilleur employé de l'année. Oui, qui ont même eu des voyages, voilà. Deux ou trois, oui. Alors, le diacre. C'est parce que diacre, ça vient de diakonos, et ancien, c'est aussi diakonos, c'est ceux qui servent, diakonos. Donc le diacre, la charge de la direction est associée aux anciens, avec une responsabilité pratique dans l'Église. Voilà le cahier des charges de 1 Timothée 3,8. Les diacres doivent aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Voyez-vous, c'est des conditions. Hein. Les femmes diacres, donc là, il est possible qu'il y ait des femmes, les femmes diacres, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres hommes doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. C'est la Bible. C'est pas une église qui a produit ça. Hein. C'est la Bible qu'elle-même, au travers de Paul, eh bien, a exprimé ses charges. Et ensuite, après, les officiers, eh bien, ils sont plus ou moins conformes à cette charge, hein. Il faut bien faire avec. Mais les officiers sont imparfaits. Donc il ne faut pas adorer un officier. Il ne faut pas non plus adorer l'office. Mais l'office, lui, il est parfait, puisqu'il y a une charge. Et l'officier, bah, voilà, on peut le critiquer. On peut, voilà. Mais ce n'est pas tout le monde de le critiquer. C'est au maître d'œuvre. Hein, on revient à la hiérarchie. Maître d'œuvre qui doit exercer ce discernement et reprendre les personnes avec tact et avec douceur. Alors voyons quelques ministères subordonnés au conducteur. Je prendrai juste quelques exemples là aussi hein, pour montrer de quoi je veux parler. Il y a par exemple ceux qui conduisent un groupe de femmes, par exemple. Hein, donc il y a l'office et l'officier. Hein. Aujourd'hui, ceux qui officient dans cette charge, c'est bien sûr Michel, aidé de Julie, par exemple. Si on prend le conducteur de groupe de relations d'aide, eh bien, voilà, il y a aussi l'office, parce que vous savez que la relation d'aide, ça touche à l'âme, ça touche à l'être intérieur. Donc, il faut avoir beaucoup de tact. Si toutefois on a cette charge dans l'Église, nous, on l'a parce qu'on croit qu'on peut aider des personnes à être plus libres dans leur personnalité. Donc, on touche à l'âme et il faut être très, très vigilant. Donc là, on peut décrire un cahier des charges et voir les officiers qui rentrent dans cette exigence. Aujourd'hui, en tout cas, on attend Pierre-André Chéna qui se sont parfaits dans cette charge, puisque non seulement ils ont la théorie, mais aussi la pratique hein, qu'ils ont travaillé ces dernières années. Et c'est pour ça qu'aussi qu'ils ont retardé un petit peu leur venue. Mais on est très heureux, si vous nous écoutez, à vous accueillir prochainement, parce que là, vous êtes formés et voilà, vous aurez cet office à diriger, cet office tout naturellement, puisque vous êtes les mieux qualifiés pour la matière. Vous voyez, c'est comme ça qu'on définit, on décide des personnes qui sont dans les offices. Alors, la louange. Alors, ça, c'est important. Je vais juste me rester un peu là-dessus. Conducteur de louange. Conducteur de louange. Il y a l'office, l'exigence, et les officiers. Là, j'ai regardé sur Internet, sur ceux qui l'ont, ils peuvent regarder Éric Brunel. Il a écrit 3 pages sur. Bon, il y a d'autres. Hein, même 4 pages, vous voyez, sur ce que devrait être, bien comprendre, la mission du conducteur de louange. Alors, le premier, c'est à quoi sert le conducteur? Je ne vais pas vous le lire, mais voilà, il y a les lignes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, il donne la réponse. Le deuxième, c'est comment choisir un conducteur de louange? Donc, quel est l'officier qu'on va mettre dans la charge? Ensuite, après, comment former un conducteur de louange qui doit se former? Ensuite, dernier paragraphe, quel est le mandat du conducteur de louange? Alors, c'est disponible sur Internet, vous pouvez le chercher. Je vais juste vous montrer les qualifications requises hein, qu'il demande, avec lesquelles je suis d'accord. Hein. Exercer le ministère de conducteur de louange demande un appel. Ah, on commence par l'appel, hein, comme par hasard. C'est le début de la vision de l'Église, l'appel. C'est premièrement Dieu qui choisit les personnes pour chaque fonction dans son église. Le ministère de conducteur de louange présente la difficulté de mettre le candidat en position de vedettariat, puisque c'est un ministère très visible. La sélection de la bonne personne est d'autant plus exigeante. Si quelqu'un croit avoir toutes les capacités pour remplir le poste, il est préférable que cette personne, pour cette personne de s'abstenir et de prier. S'il se sent, il y a déjà l'orgueil qui est là, il vaut mieux s'abstenir. Dieu seul peut nous rendre capables par sa grâce seule, même si on a des compétences musicales. Alors voilà les réponses qui sont données pour le choix. 1. Sauvé par la grâce et fondé dans les Écritures. 2. Un homme de prière. 3. Soumis à l'autorité, respecter le temps alloué et ne pas prendre le rôle du prédicateur. 3. 4. Sensible aux gens et à leurs besoins. C'est vrai que pour avoir fait plusieurs fois en l'absence de David, c'est vrai qu'on a besoin de sentir les gens, une certaine empathie pour voir, pour conduire la louange et de manière à ce qu'on ne soit pas déconnecté du public. Et ça, David, il l'a, Marielle aussi, et voilà. Et ça, c'est très très important d'être sensible aux gens, à leurs besoins. Si tous les gens sont tristes, on ne va pas dire « Ah, posez vos valises, maintenant, louez le Seigneur et levez les mains. » Bon, non, on a de l'empathie, et la patience, etc., pour les amener à autre chose. On va peut-être changer de chant, enfin bon, bref, je ne vais pas faire la place de David, il vous le dira lui-même. Esprit de service, servir, pas se servir, servir les autres. Visionnaire pour son ministère, avoir une vision pour son ministère. Un musicien ou chanteur apprécié, parce que tout le monde n'a pas forcément musicien. Nous, on a de la chance, David est excellent musicien. Mais en tout cas, chanteur apprécié, le niveau requis dépend du contexte. C'est vrai que si on est 10 personnes, une église de 10 personnes, on n'a pas besoin de la même qualité de musique ou de chant si on est 10 000. Ouais, bon. Il faut être leader, il faut qu'il soit leader. Faut qu'il soit influenceur, qu'il influence d'autres à le suivre. Pas qu'il leur tabasse dessus, mais qu'il les influence pour qu'ils le suivent. Une communication verbale claire, que ce qu'il exprime soit clairement annoncé et reçu. Il a le contrôle de sa langue, il maîtrise sa langue, il ne dit pas n'importe quoi. Être relationnel, avoir une bonne présence sur scène ou devant, ne pas être nerveux en face des gens, ça David n'est pas nerveux du tout, super. Et avoir le support de sa famille, étonnant. Bon, on peut rallonger, on peut critiquer certaines choses, bon ça c'est Éric Brunel qui l'a écrit, hein. Je n'ai pas voulu inventer, mais voilà, ça donne une idée de ce que doit normalement répondre un officier pour qu'il puisse prendre la charge. Vous voyez. Et c'est ce qui me guide moi, qui suis maître d'œuvre de cette église, pour faire attention. Quand quelqu'un me demande, je vais être conducteur de louange, j'ai un peu cette grille de lecture, j'en parle à David, et puis voilà, on décide ensemble, quoi. Voilà, on discerne les choses. Voilà. Mais ça ne se fait pas, quelqu'un ne s'auto-proclame pas conducteur de louange, vous voyez. Donc, bon, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un ordre dans l'église, et il faut le suivre. Alors, je vais passer à ce slide qui est Matthieu 20-25. Ça, c'est la manière que les offices doivent être conduits, que les officiers doivent se tenir. Les chefs les tyrannisent, dit Jésus à ses disciples, les chefs les asservissent, mais vous, et il continue, si vous lisez Matthieu 20-25, vous devez servir les autres. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui s'est fait Fils de l'homme, il est venu pour servir, jusqu'à laver les pieds des apôtres. Et Pierre, qui ne voulait pas, eh bien, Jésus l'a repris en disant « Non, je suis là pour servir, y compris toi. » Et c'est un exemple pour Pierre. Et ensuite, après, Jésus a pu faire la relation d'aide avec Pierre qui est en disant « M'aimes-tu ?» Et Pierre a compris que ce qui est important, c'est l'humilité et le service. Et pas commander. Le chef, il commande, c'est sûr, mais il commande dans l'esprit de Jésus, de service. C'est la diaconie, c'est le service, c'est le ministère. Et ceci, c'est vrai pour Jésus, pour les apôtres et les anciens. Je ne reviens pas en arrière sur les anciens. Pour chez nous, c'est les dirigeants. Aujourd'hui, il y a des dirigeants qui sont en place et c'est comme cela qu'ils doivent être des chefs. Éphésiens 4:16, c'est de lui que le corps tout entier tire son accroissement pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. C'est fort, c'est tout le corps entier qui est articulé. Et comme ça, le corps, il a une consistance et il a une capacité d'agir. L'Église est capable d'agir quand ces choses-là sont respectées. Sinon, c'est le chaos dans l'Église, je parle de l'Église locale, et ça ne peut pas marcher. Et toujours l'amour. 1 Corinthiens 8:1, l'amour, lui, fait grandir dans la foi. Parce que la foi doit grandir, notre foi à tous doit grandir. Et c'est dans l'amour. C'est pour ça que Un autre moment, Pierre dira, respectez vos conducteurs pour qu'ils le fassent avec joie. Parce que s'ils sont obligés de le faire en vous reprenant sans arrêt, parce que vous mettez les bâtons dans, voilà, ou vous faites des croche-pattes pour qu'ils tombent, effectivement, ils ne peuvent pas le faire avec joie. Voyez. Donc, c'est votre attitude qui dépend aussi, qui conditionne aussi celle de ceux qui vous dirigent. Je vais terminer en appliquant ça à la vision action. Alors, quand on parle de la vision de l'Église, c'est ce que vous allez faire sous la direction du Garvey cette année qui vient, puisque là, c'était du brainstorming sur, la vision, sur ce que c'est que l'Église. Avec tous ces matériaux-là, vous allez écrire, réécrire la vision. Moi, je l'appelle vision action parce qu'il y a différentes visions. Moi, par exemple, j'ai une vision du monde, c'est-à-dire l'interprétation de ce qui se passe dans la réalité que j'interprète. Et chacun, vous avez une vision du monde. Chacun. Bon. Mon erreur, c'était de penser que je pouvais faire évoluer votre vision du monde selon la mienne. Et David Alonso m'a dit « Oh, top, pas possible. C'est pas possible, ta vision, c'est pas possible. Okay. » Donc j'ai compris, c'est ce que lui m'a aidé à comprendre ça. Il a dit « Faites-les réécrire. Faites-leur réécrire. Ils vont le faire avec leur vision du monde à eux. Mais ce qui est important, c'est que la vision de l'Église, qui n'est pas une vision du monde, c'est une vision comment agir, comment l'Église doit agir pour entrer dans sa destinée. C'est ça qui est important. Et là, on peut se permettre d'avoir des visions du monde différentes. Chacun a une vision du monde différente. Moi, j'ai une vision du monde différente de Michel, sauf qu'on est mariés et qu'on se frotte beaucoup. Hein. Et au fur et à mesure, voilà, tous les matins, on en parle, on n'est pas forcément d'accord, mais voilà, parce que notre vie scientifique, elle est littéraire. Donc la vision du monde forcément dépend aussi de l'approche de la réalité. Donc, c'est la vision action, la vision comment agir l'Église. Alors, ça fait partie de l'édification. Comprendre tous ces enseignements, édifiez-vous les uns les autres, peut s'énoncer de la manière suivante. Sous la direction du Christ et des conducteurs de l'Église locale, le projet d'édification est fondé sur l'appel et la mission. L'appel, c'est quelle est la destination finale de la maison qui est construite ici, à quoi va-t-elle servir? Et la mission, c'est ce sur quoi il faudra se concentrer pour réussir le projet en question. Ouais. Donc, ce que vous avez à écrire dans l'année qui vient, c'est l'appel et la mission. Ce projet aboutira certainement grâce à Dieu, bien sûr, mais aussi grâce à notre, je m'inclus dedans, collaboration, par plusieurs choses. La qualification et l'organisation de ses membres, par le respect d'un calendrier stratégique et par l'application de plans d'action réussis. Alors, par qualification, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la louange, sur la relation d'aide, etc. Il faut des qualifications et on y travaille. C'est pour ça qu'on a introduit aussi, après le TQ et la Maison d'Élie, pour avoir le maximum de qualifications possibles dans l'Église. L'organisation. Hein, sans organisation, il y a désorganisation, il y a chaos. Donc il faut bien que ce soit organisé. Et là-bas, j'ai mis une organisation d'Église à laquelle on est arrivé depuis 20 ans qu'on a réfléchi. Ensuite, un calendrier stratégique. On ne fait pas tout en un seul jour. Hein. Une maison, il faut du temps. Un immeuble, ça prend plus de temps. Et puis un gratte-ciel, ça prend encore plus de temps. Donc on a un calendrier stratégique dans le sens où on veut aboutir à quelque chose. On ne veut pas détruire ce qu'on a fait, on veut continuer à construire plus haut. Et par l'application de plans d'action qui sont réussis. Voilà. Donc c'est ça la vision. La vision, c'est un appel, une mission. Avec des points de visée, parce que voilà, ça aide un petit peu à savoir où on veut aller. Et ensuite, après, qualification, organisation, calendrier stratégique et plan d'action. J'avais quelque chose, alors je suis en train de chercher si je ne l'ai pas perdu. Ah voilà. Non, je ne l'ai plus. Bon, je ne sais pas où c'est passé. ceci pour dire que, pour ce qui concerne, on a commencé ici l'église en 90, on a acheté l'église en 90. Cette église, on ne le savait pas, était sous le coup d'une malédiction à cause de la reine Élisabeth, ça s'appelle Élisabethville, parce qu'elle était versée dans l'occultisme profond, ce qui est rentré la première dans les tombes des pharaons. Donc je ne vous dis pas comment elle était chargée, elle était reconnue d'ailleurs. Et ici, elle a installé le trône de Satan, malgré elle, c'est marqué le foyer du prévoyant, c'est-à-dire foyer de Lucifer. Et c'est vrai que quand on a pris cette maison, moi j'avais aucune idée de ce genre, de la manière dont il faut aborder ça. Et on a ramé pendant 12 ans. Pendant 12 ans, on a eu du problème sur problème sur problème, jusqu'à ce qu'on ait la victoire. Et dans les années 2000, donc un petit peu avant, on a commencé à construire l'église. Donc je dirais que ça fait que depuis 20 ans, depuis 2000 à 2020, aujourd'hui, on a construit le gros œuvre, c'est-à-dire la structure pour que cette maison ne s'écroule pas, maison spirituelle, et on a donné les éléments du gros œuvre. Maintenant, c'est au G21 de faire le second œuvre. Vous n'avez pas besoin de refaire le gros œuvre, c'est fait. Mais le second œuvre, il est à faire, il n'est pas fait. Vous voyez ? Donc du coup, on voit une perspective et les enjeux qui sont dans cette église. D'ailleurs, quand on a eu ces gros combats spirituels, on a fait venir des prophètes en grand nombre, dont Marc Brisebois et autres, et Anne Griffiths. Et quand Anne Griffiths est venue, avant de venir, elle a vu une vision, elle habite au nord de l'Angleterre, et elle a vu le chiffre 1685, et elle voyait des chrétiens qui chuchotaient et qui donnaient leur mandat à d'autres chrétiens que nous étions quand on a repris cette église-là. Donc l'interprétation de cette vision, c'est qu'en 1685, Louis XIV a révoqué l'édit, dans l'édit de Nantes, il a révoqué, bien sûr, cette tolérance par rapport aux protestants. Et ici, à Aubergenville, il y a eu un évêque catholique qui s'est converti au protestantisme, qui était un peu le bras droit de Calvin à l'époque, qui semblerait était dans cette région, et qui a protégé les chrétiens. Il a protégé, je ne me rappelle plus son nom, enfin tout ça c'est dans les archives, et il a construit un temple à Volé-Huguenot, c'est pour ça que ça s'appelle les Huguenots, Volé-Huguenot. Si vous allez là-bas, vous allez voir, bon, le temple est en ruine maintenant, mais Paulette Le Tourneur, dont je parlais tout à l'heure, qui était la doyenne, son oncle, il était pasteur et il venait ici à Volé-Huguenot. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une histoire relativement récente. Mais en 1685, eh bien, ils ont été chassés du royaume de France. Et dans une auberge, ça s'est passé dans une auberge, d'après Anne Griffiths, où ils ont dit, on va reprendre le flambeau après nous. Et en fait, c'est nous qui sommes venus depuis 1685. Et donc, on a été encouragés. Nous, G21, on était encouragés par cette prophétie en disant qu'on a du sens ici. On a du sens pour établir le royaume de Dieu ici, alors que c'était le royaume de Satan. Alors, il n'a pas tout perdu parce que tous les gens ne sont pas convertis encore. Donc, il y a du boulot. C'est pour ça qu'il y a un travail de finition à faire. On a fait l'ossature, on a écrit l'organisation, la structure, de manière à ce qu'il y ait de la cohérence, que chacun puisse travailler de la même manière, etc. On a fait ça. Et maintenant, il y a le second œuvre qui n'est pas plus facile à faire. C'est pas le problème. Il est différent. Il est différent. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a montré le projet du G21. En disant, le G21, cette génération 21 va faire la même chose que nous dans un autre domaine, dans un autre registre, d'une autre manière. Vous n'allez pas vous en mêler. Mais par contre, les conditions préalables sont les mêmes. C'est de connaître l'enjeu. C'est de savoir ce qu'on a à faire, c'est être des hommes et des femmes de prière, parce que c'est sur les genoux que ça se passe. Parce que l'ennemi n'a toujours pas lâché, hein, et il n'est pas encore en prison. Ce sera à la fin des temps qu'il sera en prison. Donc il ne va pas lâcher comme ça, voilà, donc il y a du combat spirituel. Mais toute la structure est donnée par le G20. Et maintenant, il faut continuer le travail. Voilà un peu comment je voulais appliquer cette construction de l'église locale. dans laquelle nous sommes et vous êtes, et qui a une continuité, une transmission. Le plan d'action 2021, bon, on va le définir un peu plus tard en Assemblée générale, mais je vous donne juste un aperçu qu'il faut tous les ans un plan d'action, qui est basé justement sur l'appel et la mission, sur cet enjeu dont je viens de parler. Par exemple, il y en a un, réécrire la vision action. Donc, sous la direction de Laurence, vous êtes déjà en train de travailler pour que vous puissiez réécrire vous-même l'appel, la mission et les points de visée, de manière à ce que vous vous l'appropriez. Parce que mon erreur, c'était d'essayer de vous le transmettre. David a dit non, c'est à eux de le réécrire. Ce sera une meilleure formation que de le transmettre. Donc voilà, c'est un travail de réécriture, de réappropriation d'une vision que nous avons reçue sous une forme qui vous est propre, mais qui n'est pas moins exigeante que la nôtre. Réussir le projet G21, donc j'en ai parlé, c'est la transmission, de manière à ce que vous ne partiez pas en disant « ça y est, on va tout découvrir ». Non, l'eau chaude, elle existe. Si vous utilisez l'eau chaude, ça vous évite de savoir qu'il faut une quantité de chaleur pour chauffer de l'eau, etc. Bon. Donc, à partir de l'eau chaude, on peut faire d'autres choses. Voyez. Donc, vous pouvez, en écoutant bien ce que les anciens ont vécu, pouvoir aller plus loin que nous sommes allés. Mais si vous voulez tout reprendre, alors là, vous allez recommencer à zéro. Voilà. Donc, le projet G21, c'est aussi cette année qui démarre, 2021, eh bien, un projet de transmission pour construire cette église locale qui a un passé et un avenir, qui a une continuité et qui a un enjeu, c'est d'établir le royaume de Dieu ici et maintenant pour la gloire de Dieu, parce que c'est lui le maître d'ouvrage. Amen. Et juste notre plan d'action qui est accompagner la venue de Pierre-André Chéla, hein, qu'on attend depuis assez longtemps, mais je pense que Dieu connaît les temps et les circonstances, et on est très heureux de les voir en ce moment nous rejoindre dans Zoom, et je vous invite au passage de nous rejoindre dans Zoom dans une réunion de prière, parce que sans la prière, rien n'est possible, puisqu'on dépend de Dieu dans la prière, et on présente ses projets au Seigneur. Voilà, donc je prie pour que dans la G21, il y ait des hommes et des femmes de prière qui se lèvent, pas uniquement les G20. C'est pas juste pour les vieux. Hein. C'est dans la force de l'âge, on doit remettre les choses à Dieu, qui lui peut faire réussir ce qu'on fait. Si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière, je peux vous assurer que c'est l'ennemi qui aura le dessus, parce qu'il est malin, il est rusé, et on le voit actuellement dans les milieux chrétiens, c'est assez concernant ce qui se passe. Mais je souhaite qu'ici ça ne se passe pas. Parce que moi, je ne suis pas encore prêt de partir, même s'il y a des offices qui vont être remplis par d'autres, mais que je suis là pour vous aider à aller plus loin et à établir le royaume de Dieu, de le maintenir ici et d'aller plus loin, que le quartier soit touché, que les gens soient touchés, qu'il y ait des ministères qui se lèvent, qui évangélisent. Nous, à notre époque, on évangélisait, on allait dans les rues, bon. Peut-être qu'on peut faire autrement, j'en sais rien. Mais voilà, les samedis, c'était occupé pour aller dehors et évangéliser. Vous voyez, il y a des priorités. Que les priorités soient à la bonne place et que dans cette nouvelle génération, eh bien, on sache que les choses n'ont pas changé. Peut-être qu'on a des iPhones, on a des technologies, tout ça. Mais ça, c'est quoi? C'est ça, le royaume? C'est ça, le royaume de Dieu? C'est de faire régner la justice et l'amour sur la terre au travers de ce que nous sommes en relation avec Dieu et dans la mission qu'il a donnée. Et donc, quand vous établirez, réécrirez la mission, eh bien, j'espère que ça, cette mission va rentrer dans votre tête pour la mettre en pratique. Parce que Jésus, quand il est venu, il avait une mission et il l'a accomplie. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Et tout le monde a voulu ne l'empêcher, y compris ses disciples, et y compris Pierre. Il a dit « Arrière de moi, Satan !» Même Pierre. Hein. Et tout le monde a voulu l'arrêter dans ses missions. Et bien sûr, Satan, le premier, en le tentant, il n'est pas parvenu, et après ses disciples. Non, vous serez tenté jusqu'au bout. Parce que l'ennemi ne veut pas que l'Église ici soit victorieuse. Mais le Seigneur le veut, Et il compte sur des hommes et des femmes, sur des sujets qui sont fidèles à sa parole. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que, Seigneur, c'est toi qui bâtis ton Église. Ce n'est pas notre Église. Ce n'est la personne de personne d'autre, Seigneur. C'est toi qui bâtis, c'est toi qui es le maître d'œuvre. Et tu as transmis dans chaque Église locale une maîtrise d'œuvre aux conducteurs, ceux qui dirigent, pour que l'ensemble des exécutants puissent travailler de manière harmonieuse, efficace, et que tous les travaux soient bien faits, comme dans le temple que Salomon a construit, tous ceux qui sont intervenus ont fait leur part pour que le temple soit à ta gloire. Eh bien Seigneur, te prions pour que cette année qui s'ouvre, au travers du Garvi par exemple, cette réécriture ne soit pas simplement bâclée, mais qu'elle soit faite avec la conviction qu'elle doit être appliquée après. Elle doit être suivie, elle doit être conforme à ta parole, et ensuite après, elle doit être exécutée. Et Seigneur, que tous ces plans d'action dont celui dont j'ai parlé, eh bien, puissent être suivre d'autres plans qui construisent cet édifice afin que dans 20 ans, on puisse dire « Ah, quelle est belle cette Église !» Non pas extérieurement, mais en termes d'impact dans la société, d'impact dans le royaume de ce monde. Et Seigneur, même si les choses deviennent difficiles, eh bien, c'est facile pour toi, parce que tu as vaincu. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu l'ennemi, et tu donnes la victoire à tes enfants. Et Seigneur, je te prie pour ce G21 particulièrement, afin qu'ils prennent la mesure des choses, et qu'ils s'attachent, qu'ils s'attellent, Seigneur, à ce que tu leur demandes, au nom de Jésus. Amen.